Je crois pouvoir dire historiquement ceci. La France n'est pas schismatique, elle est révolutionnaire.
Nous pouvons changer les conditions de la jeunesse et les conditions de la vie.
Les vrais artistes ne méprisent rien. Ils s'obligent à comprendre au lieu de juger.
Ashishokiro, poète armé de stylo, réserve de créativité, hangar, philo.
Rap, littérature, révolution.
Yes, bienvenue à tous sur Montaigne Was a Thug, l'émission culturelle de Radio Canu, rap, littérature et révolution sur le 102.2, la plus rebelle de toutes les radios de toute la terre. Avec aujourd'hui les deux chroniqueurs qui tuent, Bertrand Fibien,
Salut.
Eugène Yonegro.
Salut.
Ils sont chauds, on démarre avec un peu de retard, mais c'est ça qui fait voilà la beauté de notre style.
Ça va, trois quarts d'heure.
Voilà, hein, tranquille. Notre style exact de cette émission de beau gosse, cool, intellectuel, révolutionnaire et extrêmement modeste. Hein, cool parce que ici, à Montaigne Was a Thug, on parle de sujets jeunes, hein, comme le rap, et ce, malgré notre âge extrêmement avancé. Intellectuel parce que, de surcroît, on se pose les questions qui pèsent, et parce qu'en plus, on utilise des mots de beau gosse comme de surcroît. Et les bonnes questions, les questions qui pèsent aujourd'hui, hein, ça va être surtout cette question fondamentale que vous posez chaque matin en vous réveillant, le rap est-il de gauche, hein? Voilà, c'est cette question qui anime chacun et qui va nous animer aujourd'hui à Montaigne Was a Thug. J'aurais aussi pu dire le rap est-il de droite, ça aurait pu faire, voilà, parce que le thème d'aujourd'hui c'est le rap et la politique. Et avant de tenter une réponse, hein, on va écouter un peu ce que dit ce rappeur Dax, qui s'appelle Dax et qui est magnifiquement célèbre et que j'ai découvert sur YouTube. Voilà, ce rappeur Dax, qu'est-ce qu'il nous dit d'un peu du game.
La mélodie m'emmène, gauche, droite, une aiguille qui me cisaille de toutes parts. L'alcool est tout black, le bateau est black, je pilote ta ride, peu importe la plaque, personne à ma place. Y'a que moi seul qui fais ça au gros mich, je te la sur mon poteau, c'est le DAQS. Après minuit, dédicace aux pirates, ça capote pour le rap, je me lève. Gauche, droite, super cul. La vie c'est un combat. Ne baisse pas ta garde, si tu tombes relève-toi, te laisse pas abattre. Et même si ça fait mal, c'est pas fini, ça continue jusqu'au gong final.
Et voilà, ça c'était Dax, un rappeur complètement inconnu, mais dont je vous invite à aller voilà écouter le son disponible sur YouTube, Dax, D-A-K-S. La chanson évidemment s'appelle Gauche-Droite, hein, et c'est voilà une allégorie encore ici de ce combat que se livrent la politique, les politiciens, qu'ils soient de gauche et qu'ils soient de droite, autour de voilà de l'enjeu que représente le rap. Parce que le rap, en effet, Monsieur Yonegro pourra nous parler, voilà, de ce combat gauche-droite, vu que lui, il fait de la boxe, hein, et qu'il est un grand champion de boxe.
Tout à fait.
Et voilà, il confirme. Et il pourra nous parler de ce combat que se livrent aussi les politiciens, voilà, dans ce qui s'agit de la récupération du rap, que ce soit autant dans le fait de manifester son accord avec le rap, ou son désaccord, hein, les deux peuvent être des politiciens. Politique intéressante, et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui à Montaigne Was a Thug. Pourquoi ? Parce que le rap en France, hein, on va partir de France, est un objet culturel qui, en devenant médiatique, voilà, attire les volontés politiques et les volontés de récupération. Et il faut, on peut souligner que dès les années 90, un peu la naissance du rap en France, on a un ministre et un ministère, celui de la culture. Ce ministre de la culture, c'est le bon vieux Jack Lang, hein, qui lui se positionne très tôt dans le game en grand défenseur du rap. Et on va écouter un peu ce que nous dit Jack Lang en 90 dans la très vieille et très rigolote émission de rap Rapline d'Olivier Cachin. Enfin, rigolote aujourd'hui avec nos yeux, mais à l'époque que c'est pris très au sérieux tout ça, Rapline.
Oui, bonjour Jacques Lang. Première question, j'aimerais vous demander comment est-ce que un ministre de la culture peut sérieusement, je dirais, s'intéresser à quelque chose comme le rap et plus spécialement le rap français.
J'ai envie de vous retourner la question. Comment est-il imaginable qu'un ministre de la culture ne soit pas attentif à un mouvement aussi vivant? Le rap, ce qui est intéressant avec lui, c'est que c'est à la fois une forme pour un rythme, une rythmique, une respiration, une manière de faire bouger son corps, d'une manière avec des lois très précises, et en même temps, un appel constant à l'imagination. On joue avec les mots, on joue avec les rythmes, on joue avec les situations. Donc c'est passionnant sur un plan, disons, purement je dirais, esthétique, artistique.
Et oui, et donc ce Jack Lang, hein, c'est intéressant ce qu'il nous dit sur le rap pour deux points en particulier. Le premier, c'est la manière dont il parle du rap. Hein. Il en parle comme s'il s'agissait d'une forme de littérature. Hein. Il en parle en fait en tant que ministre de la culture, habitué à traiter de choses culturelles, on pourrait dire globalement plus hautes. Et comme la littérature, et quand il parle de rap, en fait, on a l'impression qu'il parle de littérature, hein, comme si la finalité du rap était une réinvention du langage et d'une écriture, hein, ce qui n'est pas forcément faux, hein, et ça peut se défendre, mais c'est pas forcément évident non plus. La deuxième chose, c'est que ce qu'il dit colle parfaitement avec un certain type de réponse de l'époque, un certain type de rap de l'époque, et c'est ce que va nous révéler la deuxième question pertinente d'Olivier Cachin.
Quel a été le premier morceau de rap français que vous ayez entendu?
Précisément Pour toi le beurre. De Lionel D et de Dynasty, c'est un magnifique manifeste pour l'amitié et ce qu'on appelle la fraternité, qui pour moi n'est pas un mot creux.
Tu veux savoir mon sang est mêlé de noir, et le métis rappeur que je suis connaît bien son devoir, celui de dénoncer, de crier sur cette justice, portraitiste d'une société d'égoïsme. Car inutile de mentir ou de faire semblant d'avoir une fausse attitude au regard des gens de ces sociétés, ces villes tranquilles où quelquefois et même souvent ta vie ne tient plus qu'à un film. Beaucoup de sociétés s'unissent dans la dictature, et après ça on vient nous parler de culture. On cultive du vent, de l'inégalité, l'extrême d'un mot qui se meurt, le verbe aimer.
Est-ce que vous pensez que le contenu rebelle, voire parfois révolutionnaire des paroles du rap français rendent impossible un dialogue avec des représentants du gouvernement et notamment du ministère de la Culture?
Moi, je ne me plaindrai jamais d'une situation dans laquelle des jeunes d'aujourd'hui aient envie d'exprimer, parfois avec véhémence, violence, leur désir, leurs espérances ou leur colère.
Voilà, ça c'était Jacques Lang à l'émission Rapline d'Olivier Cachin dans 1990. Donc c'est marrant tout ça, c'est intéressant à regarder avec nos yeux d'aujourd'hui, parce que voilà, la question d'Olivier Cachin sur le rap violent et révolutionnaire en 1990, c'est un peu antidaté, parce qu'en fait le rap en 90 c'est pas non plus extrêmement violent, extrêmement révolutionnaire, hein. NTM et IAM commencent à faire leurs armes en 91 et 92. Les groupes qui plus tard sont reconnus comme violents, tels que le Ministère Hammer, sont reconnus, connus du public rap plus large à partir de 95. Donc, vraie et fausse question de Olivier Cachin, est-ce que le rap révolutionnaire c'est bien ou pas, dans un contexte où le rap n'est pas encore véhément, n'a pas encore fait parler de lui comme une musique de, finalement, de mauvais garçon. Et d'ailleurs, la chanson qui est la chanson soi-disant préférée de Jack Lang. Pour toi, le beurre de Lionel D, c'est une chanson extrêmement, bon, j'aime pas le mot bien pensante, mais voilà, antiraciste, ouverte pour l'amour entre les métis. Voilà, cette chanson s'appelle Pour toi le beurre. Monsieur Yonegro, je vous vois tiquer.
Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, parce qu'en plus, Jack Lang dit très bien lui-même que c'est un manifeste pour l'amitié.
Et pas pour la révolution.
Voilà, oui. Ou alors pour une révolution positive, justement, pour, et pas négative et destructrice, pour reconstruire du lien fraternel un peu mis à mal par les changements sociaux qui s'opèrent dans les années 90 et dès les années 80, en fait. Enfin, voilà.
Et oui, et donc c'est pour ça que, voilà, que ce ministère de la. Ces débuts du rap sont en fait très marqués par ce positionnement. Voilà, cet accaparement un peu de la gauche des socialistes, en fait, on va dire plutôt, voilà, vis-à-vis de ce rap. Et d'ailleurs, en 89, le ministère de la Culture, donc toujours Monsieur Jack Lang, crée un dispositif pour accompagner les nouveaux talents de musique actuels. Voilà, et ce dispositif s'appelle le FAIR, F-A-I-R. Ça donne naissance à une maison de disques, en fait, qui produisent les premiers albums de NTM et d'IAM. Donc voilà, on a un lien très étroit, en fait, entre le Parti Socialiste, la gauche, et les premiers groupes de rap qui naissent dans les années 90 avec bien sûr un rap qui est en fait un peu un rap socialiste, on pourrait dire, puisque les textes même sont voilà dans les thématiques sont en lien très près avec les thématiques défendues par le parti qui est à l'époque au pouvoir. Si on voulait faire rapide et caricatural, on pourrait dire qu'en fait au début des années 90, le rap né en France, et que son papa, c'est la gauche, c'est le PS, c'est Jack Lang. Hein, donc voilà. Mais ça, c'est si on veut faire, évidemment, caricatural. Parce que, en fait, évidemment, ceux qui font les papas du rap, ce sont, bien sûr, les rappeurs, ceux qui ont fait le rap. Et cette période des années 90-95, à l'inverse, peut-être voir, non pas comme émancipatrice du rap, même si dans les faits c'est ce qui se passe, comme à l'inverse jugulatrice, ou voilà, qui elle jugule d'une certaine manière un certain rap, un rap plus violent, plus sanglant, plus révolutionnaire, peut-être qu'on pourrait dire, je sais pas, c'est pas, la violence va pas forcément avec la révolution, mais en tout cas plus revendicatif, qui va naître à partir de 1995, avec ces mêmes groupes qui ont émergé dans les années 90, hein, NTM, voilà, NTM, c'est, 95, c'est la première condamnation d'NTM pour insulte à la police au concert de la Seyne-sur-Mer, où ils prennent de la prison avec sursis, je crois. C'est 2 mois, enfin c'est la prison avec sursis, j'en suis sûr, mais je crois que c'est 2 mois exactement. Aussi l'interdiction, et ça c'est peut-être la plus grosse punition qu'on leur fait, surtout l'interdiction d'exercer la profession de chanteur de variété pendant 6 mois. Donc c'est en fait l'insulte, la plus grosse punition, c'est peut-être l'insulte qu'on leur fait de les traiter de chanteurs de variété. La bonne provoque aussi.
Et par rapport à ça, j'ai une question, c'est du coup, quand NTM est condamné, c'est la droite qui est au pouvoir.
Et voilà, j'ai bien vérifié aussi, c'est en fait le concert qui date du 14 juillet 95, donc après les élections, ouais. Mais est-ce que la gauche n'aurait pas fait la même chose? C'est bon, peut-être pas, hein, peut-être pas. Mais en tout cas, si on avait posé à l'époque de Rapline la question avec Jack Lang de savoir s'il était d'accord avec des rappeurs qui disaient nique la police, il aurait peut-être été beaucoup plus emmerdé.
C'est sûr.
Que là, de répondre à la question avec des rappeurs qui disent on aime tout le monde et.
Mais en tout cas, on peut quand même souligner, ça me revient là, que cet été, il y avait une exposition sur le. Alors, je sais plus si c'était le hip-hop en général ou le rap français à l'Institut du Monde Arabe qui était donc parrainé par
Jack Lang. Ouais. Et oui, il est toujours dans le game.
Ouais, toujours dans le game, même si voilà, c'est pas, ça a un peu évolué. Là, ça voudrait dire qu'il englobe tout et pas seulement les manifestes de l'amitié. Mais
c'est avec l'exposition sur l'Institut du Monde Arabe.
Oui, enfin, je veux dire, ça voudrait dire que s'il continue un petit peu à parrainer ce genre d'expo, ça tendrait à montrer qu'il aime tout le rap, quoi, pas seulement le rap gentil.
Ah, je sais pas si on peut faire un amalgame entre l'exposition à l'Institut du Monde Arabe et le rap, tout le rap, quoi.
Je sais pas. Ouais.
Après, il a quand même mis l'accent sur le côté donc, littéraire du rap, et donc peut-être que finalement, oui, c'est peut-être plus ça qui l'intéresse que le message, on va dire. Et que...
Oui.
Bah, il y a les deux, hein. Enfin, en tout cas, dans cette interview de Rapline, il y a un autre moment qui est assez intéressant. Et que j'ai pas pris, mais qui je vais vous parler, c'est un moment où il dit que Olivier Cachin lui pose une question sur le rap américain, la différence entre le rap français et le rap américain. Alors Jacques Lang dit qu'évidemment aux États-Unis il n'y a pas de politique culturelle qui permette de mettre en avant le rap. Et il dit aussi que aux États-Unis le rap est trop violent et voilà, et ça lui plaît pas. Donc il y a aussi une certaine réserve de Jacques Lang à l'égard d'une forme de rap qui serait pour lui pas un bon rap. Ouais, ce serait en fait le gangsta rap américain, je pense. Ouais.
Mais en même temps, dans l'extrait que vous avez passé, il parle aussi de l'expression un peu violente des jeunes, et il a l'air de dire que ça le dérange pas et qu'il comprend. Juste après ce qu'il dit sur...
Il dit que oui, c'est une forme d'expression de la violence, mais voilà.
Parce que peut-être que la différence avec les États-Unis, et c'est ça qu'il exprime, c'est que c'est pas seulement dans le langage, ça passe aussi par les règlements de compte. Je sais plus, Tupac, Notorious B.I.G., je sais plus quelle
époque c'était. C'est plus tard, c'est les années 2000.
Oui. Bon.
Mais non, mais c'est surtout que en fait, il parle de violence dans le rap. Il y a effectivement une certaine violence au début des années 90. Hein. On a, je sais pas, le groupe Assassin. On peut parler avec Rockin' Squat, qui a fait la chanson dès 91, Esclave de votre société. Alors j'ai essayé d'écouter un peu les paroles pour voir si on pouvait trouver ça révolutionnaire, violent. Et moi, quand même, personnellement, je trouve pas ça extrêmement revendicatif et violent. Et on peut même faire une différence avec ce Rockin' Squat, pour situer pour un peu pour les gens, c'est en fait le frère de Vincent Cassel qui a créé le groupe Assassin dès le début des années 90 et qui rappe encore. Hein. En 91, quand il fait ce son avec Assassin, qui est son groupe Esclave de votre société, dénonce un certain nombre de choses, notamment il a une phase sur le dealer qui est moins puni que le magouilleur politique, voilà, des choses comme ça. Il ne nomme pas les gens à qui il s'en prend, alors que tout le reste de sa musique à partir de, je sais pas, les années 2000, je crois, quand il commence à percer en tant que voilà rappeur conspirationniste un peu est basé sur le fait de nommer les gens, de dire je sais pas Bolloré, Balkany, de nommer. Et dans ce rap du début des années 90, il y a une sorte d'expression un peu floue et globale anti-système, mais qui se fait moins violente du fait qu'elle ne nomme pas précisément ses adversaires. Donc j'ai trouvé que encore dans les années 90, même quand Jacques Lang parle de violence, c'est parce qu'en fait il sait pas de quoi il parle. Enfin, il parle pas vraiment de violence. Enfin, moi, je pense, ça, c'est ma thèse en tout cas. Et c'est finalement bien en 95 qu'on a un tournant, un rap qui devient un peu anti-système. Enfin, anti-système, voilà, qui devient condamné par la politique et par la politique au pouvoir, notamment, puisque le pouvoir change de côté et passe à droite. Mais qu'est-ce qu'aurait fait la gauche face à des insultes vis-à-vis de la police? On ne peut pas savoir. Donc, voilà, au début des années 90, le rap qui marche, c'est le rap gentil, finalement, hein, le rap solar, le rap NTM des premières années avec Authentique, un rap un peu tranquille, hein, le rap, il semble. Et peut-être qu'à ce propos, plus tard, Eugène Nigro nous dira quelque chose, hein, mais pour l'instant, on va terminer avec ce bon vieux Jack Lang, parce que voilà, on est venu là pour parler de politique, de rap, et pas que de Jack Lang. Donc, on va écouter les adieux de Jack Lang à cette émission de Rapline qui est assez marrante.
Est-ce que vous avez, vous, une spéciale dédicace à faire?
Spéciale dédicace au rappeur amateur de la ville dont je suis le maire. Cette ville s'appelle Blois. Alors, bonjour.
When it hit, you feel no pain. White folks that controls your brain. I know better than that. That's game, man. We ready for that. Two soldiers head of the pack. Matter of fact, who got the gat? And where my army at? Rather attack and not react. Back to beats, it don't reflect on how many records get sold on sex, drugs, and rock and roll. Whether your project put on hold in the real world. These just people with ideas. They just like me and you. When the smoke and cameras disappear again, the real world is bigger than all these fake ass records. Wait, Popo got the millions and my woman's disrespected. If you check 1-2, my word of advice to you is just relax. Just do what you got to do. If that don't work, then kick the facts. If you a fighter, rider, bada, flame ignite, a crowd exciter, or you wanna just get high, then just say it. But then if you a lie, pants on fire, wolf cry, agent with a why, I'm gon' know it when I play it.
bigger than hip hop, hip hop, hip hop, hip hop. It's bigger than hip hop, hip hop, hip hop, hip hop.
Who shot Biggie Smalls? If we don't get them, they gon' get us all. I'm down for running up on them crackers in they city hall. We ride for y'all, all my dogs, stay real. Nigga, don't thank me, record deals gon' feed your season, pay your bills because they not. MCs get a little bit of love and think they hot. Talk about how much money they got. Nigga, all y'all records sound the same. I'm sick of that fake thug R&B rap scenario. All day on the radio, same scenes in the video. Monotonous material, y'all don't hear me though. These record labels slang, I taste like dope. You could be next in line and sign and still be writing rhymes and wrote. You would rather have a Lexus or Justice, a dream or some substance, a beamer, a necklace, or freedom. Still nigga like me don't play, hey, I just stay awake. This real hip hop, and it don't stop till we get the popo off the block. They call it hip hop, hip hop, hip hop.
Maintenant, on va parler, après avoir essayé d'amorcer quelque chose sur la récupération éventuellement par le PS du rap naissant, on va essayer d'enchaîner sur l'aspect plus répressif du rap par les hommes politiques. Et c'est pour ça que je vous propose une petite chronique rapidement sur les hommes et les femmes de droite et le rap. Alors, l'histoire des liens entre les hommes de droite et les rappeurs est surtout, on s'en doute, une histoire de gros battles et de clash. Valls, Sarkozy, Le Pen... Ces gens-là ne s'en cachent pas, ils n'aiment pas le rap et lui préfèrent Wagner pour le dernier, Gilbert Montagnier, Johnny, Carla Bruni et autres Michel Sardou pour les deux premiers. Donc, les hommes politiques de droite donc exècrent et vomissent généralement le rap. Certains d'entre eux n'hésitent pas même à se frotter aux chaînes en or des voyous du ghetto qui diraient des choses pas très sympathiques sur leur belle patrie. Donc l'un des exemples les plus récents en date, c'est notre cher Manu qui, en 2013, en sa qualité de ministre de l'Intérieur, voulait s'attaquer aux paroles agressives des rappeurs. Et cette prise de position héroïque, on va le voir, n'est pas très originale en fait dans l'histoire de la Ve République. Et je vous propose que nous observions un petit panorama des engraines entre hommes politiques et rappeurs.
Faites donc, monsieur Négro.
Donc, monsieur Tuck, vous avez déjà parlé de NTM, donc qui a été condamné, donc je ne vais pas revenir dessus, mais l'un des premiers clashs qui est en fait assez fameux, et celui qui a opposé le chiraquien Jean-Louis Debré, qui était ministre de l'Intérieur de 1995 à 1997 dans le gouvernement Juppé, et le crew Ministère Hammer, dont vous avez parlé. Donc Hammer qui signifie action, musique et rap, qui est composé entre autres de Passis, Tommy Bugsy, Kenzie et Doc Gineco.
Yeah.
Et en fait, ce sont surtout deux titres. Donc Brigitte, femme de flic, à l'écoute duquel le délicieux Charles Pasqua avait en vain demandé le retrait de l'album Pourquoi tant de haine des bacs. Et l'autre morceau, c'est Sacrifice de poulet, donc qui figure sur la BO du film La haine de Mathieu Kassovitz. Et donc voilà, c'est ces deux titres qui posaient problème surtout. Et le groupe sera condamné à 250 000 francs d'amende par donc le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui ne les a pas attaqués sur leurs titres, mais sur leurs déclarations dans le magazine Entrevue d'une part, et sur le plateau de Ça se discute de Jean-Luc Delarue d'autre part, pour provocation au meurtre de policiers. Donc on va le voir, ça tourne toujours, ça tourne souvent autour de l'attaque, l'attaque aux flics dans les premiers temps, ouais. Puisque on va le voir après, le deuxième épisode, c'est bon, quand Sarkozy arrive ministre de l'Intérieur en 2002, qui va s'en prendre à deux groupes, La Rumeur et Sniper. Donc Sniper pour son morceau La France. Et en fait, en 2002, le procès de la rumeur pour diffamation publique envers la police nationale, après que Amé a parlé d'assassinat commis par la police, donc on les a accusés de diffamation. Ce procès, donc, c'est le plus important en fait qu'ait connu le rap français, parce qu'il a duré 8 ans en fait. Il s'est concrétisé par 8 ans de débats passionnés, d'appels, de pourvois en cassation, et il s'est finalement concrétisé par la relaxe des membres du groupe.
Eh oui.
Eh ouais. Et quant à Sniper, oh, Sarkozy. Elle est déjà dans le sens du FN et des identitaires dans un sens avant 2007, parce que ceux-ci militaient pour l'interdiction du collectif de se produire. Voilà, il a un peu pris le train en route, quoi, on va dire. Alors ensuite, troisième exemple aussi assez fameux, c'est un certain François Grosdidier, député UMP de la première circonscription de la Moselle, pardon, qui parvient à convaincre en novembre 2005 une centaine de députés et une soixantaine de sénateurs de s'attaquer à 7 groupes ou artistes issus de la scène du rap français. Donc c'est Lunatique, Smala, Salif, 113, Minister Amer encore, Fab et Monsieur R, pour incitation au racisme et à la haine. Mais en fait, finalement, bon, encore une fois, le tribunal correctionnel de Melun a considéré sa demande comme irrecevable, et ce pauvre et gros Didier a été victime des railleries de l'opinion publique devant cette espèce de conservatisme et cette méconnaissance totale du hip-hop. Et on peut noter que c'est exactement les mêmes rappeurs que Vals vise en 2013, arguant, je cite, qu'il faut lutter contre les paroles agressives à l'encontre des autorités ou insultantes pour les forces de l'ordre et les symboles de notre République.
Il a juste récupéré le truc de gros Didier, quoi, zéro imagination, il a même pas écouter un petit nouveau rappeur pour la
c'est ça, surtout que c'était pour la plupart des rappeurs qui n'officiaient plus.
Ouais, c'est ça.
Lunatique, ça n'existait plus, quoi, en 2013. Hein.
Pour être au courant du game un peu.
Voilà, ouais. Ouais, non, c'était vraiment bon. Donc, du coup, j'ai envie de dire que c'est des déclarations de Valls qui n'ont rien perdu de leur actualité, sauf peut-être pour les symboles de la République et notamment pour sa devise liberté, égalité, fraternité, où là, Valls a fait preuve d'un petit revirement et rejoint d'une certaine manière les paroles insultantes pour les symboles de notre République. On peut considérer la déchéance de nationalité, ce genre de choses criantes d'actualité. Et voilà, c'est ce que je, pour revenir sur ce que vous avez dit, Monsieur Thug, on peut remarquer que tous ces artistes ou collectifs n'étaient plus en activité, absolument tous, au moment où Manu s'émeuvait, à croire qu'il avait simplement envie de faire du gros Didier dans le texte. Cependant, je pense qu'on peut noter qu'il y a un point qu'il soulève qui n'est peut-être pas dénué de vérité, c'est la place de la femme dans les morceaux. On pourra peut-être y revenir plus tard dans la discussion, et ça me permet de faire une transition vers le dernier clash que j'ai pu noter. C'est en 2009 à La Rochelle, donc là c'est le battle royal Ségolène Royal versus Aurel San. Voilà, Ségolène Royal avait lancé une tribune contre Aurel San et l'avait déprogrammé du festival des Francofolies suite à sa découverte du morceau Sale Pute. Voilà, et donc voilà pour ce rapide panorama de quelques clashs entre hommes de droite et rap. Donc un aspect plus répressif des hommes politiques qui voilà veulent s'en prendre à ces petits voyous qui s'en prennent aux symboles de la République et à la police. Mais on a des exemples aussi, et on va revenir dessus bien sûr, de rappeurs qui s'en prennent eux aussi aux hommes politiques. Donc beaucoup au Front National. Donc on a par exemple le fameux Marine de Diams.
Oui, Marine.
J'en ai trouvé un qui est très sympa aussi, de Lafouine, assez récemment, qui s'appelle Peace sur le Front National. Je sais pas si vous le connaissez.
Non, je l'ai pas.
Donc Peace, c'est P-E-A-C-E.
Bon, quel jeu de mots.
Ouais, mais sinon c'est pas très très recherché. Hein. Ça commence par oh la chatte à Marine Le Pen, la chatte à son père aussi. Donc bon, c'est.
Oh, c'est drôle.
Bon, c'est drôle. Ouais, ça va. Et on a aussi assez marrant Youssoupha, qui a répondu assez sèchement à la déclaration d'amour de Marion Maréchal Le Pen, qui, je ne sais pas si vous savez, mais dit bien aimé Youssoupha.
Oui.
On a aussi Zebda en 1998 dans le titre Tout semble si, vous savez, n'attends pas qu'ils reviennent, ils ont 4 villes déjà. Donc on a aussi voilà tous ceux qui s'en prennent finalement à ceux qui protègent les hommes politiques, à leurs représentants, donc NTM avec Qu'est-ce qu'on attend, tout ça. Et récemment, un des exemples en date les plus explicites, c'est Vald avec Shoot un ministre. Bon, ça vaut ce que ça vaut aussi, mais ça le mérite d'être clair.
Oui, et puis il est dans la tradition, quoi, du Minister Hammer, tout ça, bien joué à Vald.
Ouais, mais sauf que là, il s'en prend directement vraiment au ministre plutôt qu'aux policiers, les représentants de l'État, la violence légitime.
C'est vrai. La seule constante, c'est le gun, finalement.
Ouais, un peu, hein. Ouais.
Et le gun, est-il de droite ou de gauche? Ce sera le titre d'une prochaine émission. Non, je rigole. Donc, oui, magnifique et pertinente chronique que celle de Eugène Yonegro. Et que nous venons d'entendre à l'instant, hein, et là, voilà, et la fin, c'est la question, hein, et le rap, finalement, puisqu'il se positionne politiquement, puisqu'il peut dire, alors, shooter un ministre, etc., ou, anti-FN, bon, c'est assez consensuel, quoique on voit apparaître des groupes de rap d'extrême droite, donc peut-être qu'un jour, ce sera plus consensuel, mais voilà, la question que on va se poser dans cette deuxième partie d'émission. C'est le rap, lui, aime-t-il la gauche, hein? Donc voilà, grande question, très difficile d'y répondre, parce que le problème, c'est évidemment de parler du rap de manière uniforme, hein, parce que il y a des changements historiques, des variations. On l'a vu, hein, en 90, c'est déjà plus, en 95, c'est déjà plus la même, c'est déjà plus la même chose qu'en 90. Il y a des variations entre les pays, hein, entre le rap français et le rap américain, pour ceux qu'on connaît le mieux, malheureusement, et aussi entre les rappeurs, dont voilà, les textes ne sont pas les mêmes, tout simplement. Pareil, pour répondre à la question, le rap aime-t-il la gauche, il faudrait savoir ce que c'est la gauche, hein, de quoi on parle. Est-ce qu'on parle du PS? Est-ce qu'on parle de la gauche anticapitaliste et révolutionnaire que nous, on kiffe à Montaigne was a thug, hein? Alors, on va essayer de préciser cette question, le rap aime-t-il la gauche, et aujourd'hui, s'intéresser plutôt à la question de savoir, de connaître, voilà, les relations entre le rap et les valeurs libérales, voire ultra-libérales. Identifiées, selon nous, et j'espère que vous serez d'accord, cher chroniqueur, plutôt à la droite. Hein, oui. L'ultra-libéralisme économique, en tout cas.
Tout à fait.
Donc, on va partir sur ça, sur ce de, essayer de se demander les rapports entre ces deux, entre le rap et l'ultra-libéralisme, et pour essayer de questionner la question, on va partir sur la naissance du gangsta rap américain, hein, qui, pour moi, selon moi et selon d'autres spécialistes dans lesquels j'ai lu les écrits, entre autres Thomas Blondeau, qui est un journaliste de rap, qui lit en fait la naissance de courant de pensée libéral à la naissance du gangsta rap américain, notamment sur la côte guinée, voilà, principalement sur la côte ouest des États-Unis. Il parle notamment d'individualisme radical. Pourquoi? Parce qu'en fait, le gangsta rap mélange l'idéologie du self-made man américain et le thème de la révolte noire armée. Hein, tout simplement, le self-made man, voilà, le mythe fort de l'Amérique, hein, un peu le rêve américain, comme quoi un homme seul arrivant aux États-Unis dans cette terre vierge à conquérir, donc ça c'était au 19e siècle, vous l'avez compris, peut tout seul se lever et affronter les déterminismes sociaux, les déterminismes économiques pour finalement arriver à créer son entreprise idéalement, se sortir de la merde et, but de la vie de chacun, devenir immensément riche. Donc c'est ça. Et c'est un peu ce mythe du self-made man, et ce en quoi le gangsta rap est profondément américain, c'est qu'il reprend en fait cette idéologie du self-made man auquel il enlève la dimension de travail en fait. C'est je vais devenir le self-made man, je vais devenir riche. Mais bat les couilles de la loi, quoi, en fait, c'est ça. C'est ça, être un gangsta aux États-Unis. Parce que pourquoi? Parce que la loi est blanche. La loi est blanche. La loi est du côté du voilà des blancs et du pouvoir. Et moi, je suis un descendant d'esclaves. Je suis un rebelle noir. Et donc bat les couilles de la loi. Et je vais prendre mon gun et je vais niquer tout le monde et je vais devenir le self-made man. Voilà, c'est ça que on va aujourd'hui définir comme le rap un peu de droite. Et c'est de ça que parle IAM dans sa chanson Rap de droite.
Les diamants dehors, les pistons, les salaires excités. Les nippers en silicone et les filles désinhibées. Les Audi, les BM, les Hummer et les Merco. Le cuir et les peaux, les chaudes, les V8 en pléco, des mythos. Les neuvages, la race au combat. Les gros, les clépards, les sapés, les marques, les parts de marché, le ronro et les strass. Les armes parades devant les caméras. Les camarades apportent le jus à la haine, posé sur son quai d'amarrage. Pas facile à chaque instant, j'essaie d'y échapper. La pub, la vie de chaque jour pousse, maintient la pression. Avoir
par ouvrir et acheter. Quand on vire qu'une agression, alors maintenant dans les clics, ça vient pour compter le blé. On pick up ses tours et ses blocs qui crient de paysage. Les cités, les rues, les bars, les villes qui le dévisagent. On jalouse, on oui, on crache, on râle, on est médisant. Ce sens, la France est dans nos veines, on fait de bons paysans. Le système de l'État produit le truc par la force. Et en face, on répond en créant la force par le cri. On exige, on impose le silence par les cris. On garde la création du rap juste à deux doigts de la mort. Juste à deux doigts de la mort. Les couleurs font des toupables. Pendant des picots, des niaques, des négros, des toupables. On se croirait au puits du fou, au front ou à l'UMP. T'as bien le cul posé au milieu du rap français. Flingue et balle, c'est du rap de droite. Femme soumise ou à poil, c'est du rap de droite. Corruption, copinage, c'est du rap de droite. Le grand choc affiché passe pour un bon rap de droite. Vrai facho, faux rebelle, c'est du rap de droite. Trop de ventes, de cocktails, c'est du rap de droite. Plein de bouche, pas d'oreilles, c'est du rap de droite. Doucement la vie du format pour un bon rap de droite.
Voyez le truc libre sans limite. Et c'est presque une prison où que tu ailles en tépi. Comme Gomer au balcon, ça matche le voisin au lieu de passer un coup de balai d'eux. Vend sa porte avec l'ego bien plus gros que le K2. On prend le moyen, on fait croire que c'est bon. Souvent l'emballage est plus solide que ce qu'il y a dedans. On sème et on récolte immédiatement, qu'on prend y'a plus le temps. Avant c'était le poudron, mais c'est le passé. Et à présent on veut du caviar bien gras. Pas du 0%, vos cigares et vodka. Loin du merguez d'antan, VIP et cristal. Diamant dans les dents, tout dans la tendance. Comme tous, y'a aussi les juges et leur jugement, souvent émis dans le noir, les putes et les petits cons. Souvent tapis dans le bois, on parle plus de fesses que de fond, de fric que de flow. De toute façon, ça sert à rien, ça rapporte moins que les strings en vidéo. Y'a des réseaux de surveillance qui voient pas du bon oeil, des rumeurs et des ragots. Mais pas à la même taille, ok, parfois ça vole pas haut. Mais regarde un peu ma grosse médaille, on aurait dû tourner ailleurs. On s'est perdu, ça fait un bail.
Munitions, vingt et balles, c'est du rap de droite. Femme soumise ou à poil, c'est du rap de droite. Corruption, copinage, c'est du rap de droite. Le grand choc affiché passe pour un bon rap de droite. Vrai facho, faux rebelle, c'est du rap de droite. Trop de ventes, de cocktails, c'est du rap de droite. Plein de bouche, pas d'oreille, c'est du rap de droite. Doucement la vie nous formate pour un bon rap de droite.
Vous écoutez Montaigne Oiseteug sur le 102.2 de Radio Canu, la plus rebelle, la plus thug des radios. Et oui, c'était Rap de droite de IAM sur l'album Saison 5. Alors, monsieur Yon Negro, vous avez, semble-t-il, extrêmement kiffé ce morceau. Hein, que nouveau votre exaltation jubilatoire.
Non, je trouve les paroles très justes et très ouais c'est pertinent. C'est en fait ce qui pointe là dans le rap de droite, c'est bon, le terme d'individualisme est assez juste aussi, mais c'est plutôt un matérialisme total, quoi, au sens péjoratif du terme, hein, pas le matérialisme historique à la de Marx, mais c'est-à-dire que c'est ça, c'est la désillusion du rêve américain et même maintenant français. Hein, ce qui est en fait l'idéal, c'est l'accès à la consommation, quoi. Et du coup, les rappeurs ont tendance à essayer de montrer, d'exposer ce qu'ils ont, les choses auxquelles ils ont déjà accès. Voilà, c'est ce qu'ils disent, hein, les guns, les femmes, tout devient consommation, quoi. Et du coup, j'ai trouvé ça assez juste et j'entends pas beaucoup de rappeurs qui le disent, quoi. Bon, après, c'est, voilà.
Excusez-moi en plus.
ouais.
Non, mais par exemple, moi, j'ai pensé pendant la chanson, il y a le clip de Sniper Trait pour Trait. Hein, Trait pour Trait, sorti dans le début des années 2000, de Sniper qui commence, en fait, il faut pas écouter juste la chanson, faut regarder le clip avec les membres du groupe Sniper déguisés en gangsta rappeur américain avec des grosses chaînes, hein, comme vous voyez au début des années 2000, grosses chaînes, gros baggy, grosses casquettes dents en or. Ils arrivent comme ça déguisés avec des femmes très légèrement habillées, donc ils commencent leur clip comme ça, et puis au bout d'un moment, en fait, il y a leurs potes qui arrivent et qui les mettent de côté, qui disent oh, c'est quoi ça et tout, c'est pas ça notre rap et tout. Et après la chanson, le refrain il fait simple, vrai, etc. Et ouais, voilà, encore une critique du gangsta rap, comme l'est pour moi cette chanson rap de droite.
Mais c'est vrai qu'on on parlait de la rumeur aussi tout à l'heure, c'est Amé, enfin les membres de la rumeur appelaient vraiment à repolitiser le rap, quoi. Et qui à un moment, je sais plus quand c'était, il y avait eu des entretiens où il disait ce que c'est dommage que le rap français, notamment, verse dans le gangsta rap et délaisse un peu la politique, quoi.
Voilà. Alors après, voilà, il y a tout ça, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce gangsta rap, finalement, ce rap de droite, est totalement à blâmer et à condamner. Oui. Parce que, et d'ailleurs, c'est dans cette chanson rap de droite de Hayam, il dit doucement la vie nous formate pour un bon rap de droite. Alors voilà, il y a ces rappeurs qui versent qui filent un mauvais coton, on peut dire. Mais il y a aussi la vie qui oblige à un rap de droite,
Oui,
qui, doucement la vie, voilà, c'est en fait finalement après c'est un discours facile aussi, mais ces rappeurs ils vivent dans un monde ultra libéral où la recherche de la richesse c'est ça le bonheur, et finalement ils font comme les autres, hein, et pourquoi est-ce qu'ils sont plus abîmés que les autres? Et on écoutera après une autre chanson de Fab de la Secret Connection, il dit excusez-nous de vouloir de grosses voitures, même si lui c'est pas du tout le genre. Donc est-ce que finalement ces rappeurs, ces gangsta rap ne sont pas des simples victimes, hein? Est-ce qu'ils ne sont pas un peu trop frileux pour agir dans le sens de la révolution, hein? Et c'est la question qu'on va poser à monsieur Bertrand Fibien.
Oui, d'ailleurs, en parlant du mot frileux, donc j'aurais peut-être quelque chose à dire, et vu qu'on était un peu on est dans le rap, dans le clash, etc., je vais essayer un peu de clasher, moi aussi, ou plutôt de râler contre la langue française elle-même.
Bien sûr, un clash de Fibien.
Contre l'un des plus grands défauts de la langue française, si ce n'est peut-être son plus grand défaut. Car en effet, si le verbe râler, par exemple, a plus d'une vingtaine de synonymes, donc comme par exemple ronchonner, bougonner, rouspéter, maugréer, ou encore rouméguer, rognonner ou répoutéguer. Si d'un côté donc la langue est si riche, par certains de ses aspects, elle est malheureusement pauvre. Car si tout le monde connaît en effet le mot frileux, l'adjectif frileux, donc vous connaissez l'adjectif frileux.
Oui, en effet.
Voilà.
Je vais l'employer.
Par contre, vous ne connaissez sûrement pas son antonyme.
Non.
Ce n'est pas ça, tout simplement parce que cet antonyme n'existe pas. Donc la langue ici nous fait une très grande injustice. Donc si on peut dire en un mot le fait de craindre le froid, pour ce qui est de craindre le chaud, les mots nous manquent. Or cette injustice a vraiment de profonds retentissements dans nos sociétés et même sur le monde en lui-même.
Car
André Breton s'est un jour posé cette question: la médiocrité de notre univers ne dépend-elle pas essentiellement de notre pouvoir d'énonciation? Donc aujourd'hui, moi, je peux lui répondre en lui disant que oui. Car ce défaut d'énonciation, donc ce trou dans la langue que représente l'absence de l'antonyme du mot frileux, a creusé de véritables sillons dans nos cerveaux. Sillons qu'abreuve aujourd'hui le sang meurtri de tous nos camarades qui osent craindre la chaleur. Donc ce creux langagier a en effet entraîné une rupture, une séparation, une dichotomie. Donc là, pour le dire, il y a plein de mots. Donc une frontière, encore un mot, entre le chaud et le froid, et dans laquelle la chaleur a toujours le beau rôle, alors que le froid a le mauvais rôle. Il n'y a qu'à voir, par exemple, du côté de Charles Aznavour, lorsqu'il chante « Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil ».
Bon, faux.
C'est n'importe quoi. Conséquence désastreuse.
Et tout le monde semble d'ailleurs d'accord, les lunettes de soleil, c'est plus cool que les moufles. Mais bon, là aussi, c'est un peu n'importe quoi. Et d'ailleurs, même notre corps s'y met quand on tombe malade. C'est quand il fait froid. Donc, encore une fois, c'est un peu n'importe quoi. C'est donc n'importe quoi, mais pourtant, donc c'est comme ça. Et tout ça parce que le contraire de frileux n'existe pas. Mais enfin, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre sur le coup, là. Car comme tout homme du 21e siècle, je me dois de crier au complot orchestré par les Illuminati. Et donc, n'avez-vous pas remarqué que n'importe où vous alliez, donc dans les petits magasins ou dans les grandes surfaces, dans les bibliothèques ou dans le métro, donc partout, on crève de chaud. Les radiateurs sont toujours à fond partout. Et de la sorte que rentrer chez vous, vous avez l'impression d'avoir froid. Alors prenez garde parce qu'on cherche à vous rendre frileux. Mais bon, vous pouvez nous demander pourquoi on cherche à nous rendre frileux. Eh bien, pour vous faire allumer le radiateur, le chauffage, et ainsi vous faire payer. Ou encore pire, pousser à assassiner de sang-froid, c'est le cas de le dire, de sang-froid, d'innocents petits arbres afin de les faire brûler dans votre cheminée, ce qui n'est pas gentil du tout. Mais il y a peut-être encore pire, encore plus tragique que tout cela. C'est que si le mot n'existe pas, la réalité, elle, existe. Boileau, dans l'art poétique, disait « Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. » Eh ben, c'est pas tout à fait vrai, parce que s'il y a en effet de nombreuses personnes qui ne supportent pas la chaleur, ils sont obligés de passer par des détours et des périphrases pour le dire. Donc ainsi, de même que Cyrano a trouvé plusieurs façons de dire qu'il avait un grand nez, j'ai trouvé moi plusieurs expressions de cette crainte du chaud. Donc je revais ma veste de Cyrano pour vous,
oh, nous en faire part.
Vous faire part de ces différentes façons de dire la crainte du chaud. Donc Cornélien. Devant tant de chaleur, je ne puis décider. Fuir le radiateur ou bien la cheminée? Pédant. L'animal seul, monsieur, qu'Aristophane appelle Hippocampélé Fantocamélos, dut souffrir tant et tant de notre cher Hélios. Injuste. Ah, traître, tu rougis. Mais non, j'ai juste chaud. MacMahon. Que d'eau sous mes aisselles. Botanico-poétique. Les pédicelles s'effritent, la bractée tombe. Pédoncules et pétioles sont toutes rachitiques. Stipules au sol, apex froissé, pétales décolorés, sépales inanimées. Ah, trop de soleil, la fleur s'est fanée. Game of Thrones. Winter is coming.
Yes!
Platonicien. Alors, n'apparaît-il pas à Dimanche que l'idée de bien est ce qui répand de la vérité sur les objets de la connaissance et qui confère au sujet qui connaît le pouvoir de connaître? Ceci n'est que pure vérité, Socrate. Comment pourrait-il en être autrement? N'en conclut-on pas que le soleil qui projette la lumière et la chaleur sur les choses du monde est l'image du bien? Ah non! Japonais. T'as qu'à quitter ton manteau! Racinien. Le lâche craint la mort et c'est tout ce qu'il craint. Moi, je crains la chaleur, c'est tout ce que je crains. Donc voilà quelques exemples d'une réalité sans nom. Et un nom qu'il faudrait donc pourtant trouver. Donc vous avez tout à l'heure dit chaudeux, chaleux, donc non, ce n'est pas ça. Chaleureux, bah, ça marche pas parce que ça existe déjà. On pourrait donc dire thermophobe pour employer l'étymologie grecque, mais
ouais,
donc,
c'est pas
vraiment une phobie, c'est pas très joli non plus. Mais bon, donc si on doit revenir sur l'étymologie, il faut peut-être faire un rapport avec l'adjectif frileux, qui lui viendrait du diminutif de froid en latin, qui serait frigidulus. Et donc si on cherche un équivalent pour l'adjectif chaud, on tombe sur un calidulus, ce qui donnerait en français caliduleux. Donc mais entre une sorte de
j'aime bien
à situer, ouais, c'est un peu étrange quand même aux oreilles, caliduleux, mais c'est un peu poétique. Donc c'est le seul mot que j'ai trouvé à vous proposer, donc je vais peut-être écrire à l'Académie française pour faire entrer ce mot dans le dictionnaire.
Eh ben nous vous y encourageons.
Vous m'excusez. Excusez, y'a tellement de frères qui souffrent et qui sont muets que je suis obligé de causer. Excusez-nous si on vous casse la tête, si on n'a pas le moral, si on est le cheveu dans vos assiettes. Excusez-nous si on est vieux avant d'avoir l'âge. Excusez-nous, on était gosse avant d'avoir la rage. Excusez-nous si on est mal poli, si on devient ce qu'on voit, c'est qu'on comprend pas tout à fait ce qu'on vit. Si tu comprends pas tout à fait ce qu'on dit, alors excuse-nous, et si tu crois qu'on ment, accuse-nous. Excusez-nous si on se casse la tête, si on se cache pas, si les mots qu'on dit, on les mâche pas. Excusez-nous si on veut davantage. Et puis excusez-nous, on en a marre de voir des frères en cache. Excusez-nous si on se répète, mais quand on regarde à la fenêtre, on voit dans celle d'en face qui reflète l'image du voisin qui regarde chez nous. Alors excusez-nous si quand on regarde ailleurs, on voit que nous. Excusez-nous si on est en mission, si vous comprenez pas. À la maison, nous, on n'apprenait pas. Excusez-nous, élevés par des gens droits, on les a vus souffrir, donc la réussite, on n'y croyait pas. Excusez-nous si on est l'endroit où on a grandi, autrement dit, puisque l'argent est roi. Excusez-nous si on en parle autant, souvent plus qu'on en a. Et excusez Tony Montana. Excusez-nous si on a l'air mûr, on fait plus que notre âge. Message de sage mais pas l'envergure. Excusez-nous si on a l'air sûr, si on a l'air dur, c'est qu'on vit pas assez à l'air pur. Excusez-nous, on s'auto-censure, réalité rature. En vrai on rêve tous de grosses voitures. Grandir sans frais, c'est dur. Manta Oxmo, je t'assure, t'as pas saisi, enlève le fric de la Côte d'Azur.
Excusez-nous si on sait pas quoi faire. Nos vies des vols charter, qu'on a envie de changer en classe affaires. Excusez nos besoins à satisfaire. Excusez la misère, si vous êtes riche pour vous c'est salutaire. Marre d'être les larbins dans vos sanitaires. On voit des choses bizarres, on aime la chaleur, on vit dans le blizzard. Excusez-nous de vous dire excusez-nous. Et si vous pensez que c'est à cause de vous, alors excusez-vous, vite fait.
Yes, 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 c'était Excusez-nous, du titre du rappeur Fab, à Mountain Was The Thug. Hein. Et voilà, et d'abord, ce Excusez-nous était là pour excuser nous autres qui sommes ici, chroniqueurs Bertrand Fibien, Eugène Ionegro et moi-même, Monsieur Thug, de nos digressions constantes, hein, et de, même si elles sont magnifiques, même si elles sont magistrales, nous sommes sortis du thème. Et le thème d'aujourd'hui, c'était, bien sûr, le rap de droite, le rap de gauche, le rap et la politique. Alors, ce Fab, là, qu'on vient d'entendre, et nous avons souligné tout à l'heure qu'il disait un peu la même chose que Akhenaton et Shuriken dans leur morceau rap de droite, écouté précédemment. Le constat qu'il y a une pression sociale, sociétale, systémique, qui nous pousse à vouloir plus, à vouloir la richesse matérielle, et que finalement le gangsta rap, les philosophies consuméristes ne sont que le produit de ce système qui met à l'honneur la consommation et la détention de richesses. Donc un constat un peu frileux, hein, puisqu'il ne pousse pas à la révolte et à la révolution, mais nous pourrons peut-être voir des rappeurs qui eux sont plus caduleux et qui veulent la révolution. Caliduleux et qui veulent la révolution. Mais Monsieur Ionegro avait à ce propos-là quelque chose à dire.
Ouais. Oui, si je puis me permettre, le morceau que vous venez de passer est quand même très intéressant, parce que j'ai l'impression qu'il y a une petite différence avec ce que pointait Ayam du doigt et ce qu'il disait. Parce que dans le gangsta rap qu'on dénonce un petit peu là, on dénonce plutôt un rap qui est dans l'exposition des richesses qu'il a déjà. Je pense par exemple au morceau de What's the Difference de Dr. Dre.
Exact.
Voilà, c'est quelle est la différence entre toi et moi. Moi, j'ai plein de thunes, j'ai plein de meufs, gna. Bon. Alors que là, dans le morceau, c'était pas excusez-nous d'avoir, mais excusez-nous de vouloir. Et ça, ça pourrait être un petit peu capiduleux, parce que si on réfléchit finalement, je sais pas, la Révolution française par exemple, on limite à la fois pour l'abolition des privilèges, mais aussi pour en avoir un petit peu nous. Donc l'accès à la consommation, finalement, ça pourrait être d'une certaine manière pas un slogan révolutionnaire, mais une motivation révolutionnaire aussi. C'est pour mais donnez-nous-en un peu, c'est vous qui avez tout. Et là, je trouve qu'il y a une différence entre deux types de rap un peu gangsta, entre celui qui est dans l'exposition de ce qu'il a déjà, je sais pas, un peu Booba, enfin voilà, le rappeur qui a réussi
Booba à partir de 2010, totalement là-dedans.
C'est même peut-être un peu le propre, malheureusement, des gens qui sortent des self-made men, quoi, enfin des gens qui avaient pas grand-chose à l'origine et qui ont percé d'un coup. Je sais pas, je pense au football aussi, qui sont un peu comme ça dans l'extravagance, bon je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une différence entre le fait de l'exposition et le désir d'obtenir, oui, même si on peut se demander si c'est vraiment une cause révolutionnaire tout à fait légitime, mais c'est un premier pas, quoi, enfin
Oui, et surtout que en fait dans cette chanson de Fab, ce qu'il y a d'important, c'est que excusez-nous, c'est à qui est-ce que ça s'adresse, qui c'est ce... Enfin non, nous on comprend que c'est en fait sa communauté, la communauté issue de l'immigration, qui est portée vers le rap, etc., des quartiers. Mais qui est-ce qui doit excuser, qui est-ce qui doit les excuser? En fait, ce serait cette autre France, la France à laquelle ils s'opposent, une France plutôt, on imagine plutôt blanche, plutôt riche.
Ouais.
et qui elle aurait droit à avoir accès à cette consommation. Et eux finalement, lui ce que j'ai l'impression que Fab déplore dans cette chanson, c'est le fait que on accuse toute une partie de la population, la partie rap, de vouloir accéder à cette consommation, alors que notre partie elle y a déjà accès et s'en porte très bien, quoi.
Ça pourrait même être une réponse à IAM d'une certaine manière, enfin les critiques du rap un peu de droite, quoi. Ceux qui disent ou même les critiques musicaux, peut-être d'une certaine manière, ceux qui disent ouais mais votre rap c'est pas du tout profond parce que tout ce que vous voulez c'est avoir un accès à la consommation. Et là il y aurait une réponse, oui mais excusez-nous de vouloir accéder à ça, quoi. Je sais pas, ça me semble une lecture possible.
Oui, mais d'un autre côté, c'est que IAM, notamment Akhenaton, a fait une pub pour Coca.
Oui,
vous l'avez rappelé tout à l'heure. Donc bon, évidemment, ouais, c'est compliqué. C'est mais bon, c'était non, pas sur ça qu'on jugeait vraiment le texte de rap de droite. Qui, évidemment, c'est...
Oui.
Après, je suis pas sûr que IAM veuille, la pauvreté pour tous, disons.
Non, bien sûr. Non, mais là, ça pose une question vraiment sur, l'essence même de la révolution, d'une certaine manière. Parce que, bon, la révolution, on fait la révolution pour libérer les individus. Donc, dans la mesure où on essaie de montrer que la libération de l'individu se fait par l'accès à la richesse ou à la consommation, comment réagir autrement que comme ça? Après, on peut, en tant que, je sais pas, éclairé, ou... il y a des critiques qui peuvent déplorer ça. Je sais pas, je pense par exemple aux situationnistes, Guy Debord, tout ça qui, bon, c'était pas les rappeurs, mais c'était les révolutionnaires noirs dans les années 60 qui, donc ouais, il y a un texte de Debord, je crois que c'est Rapport sur l'économie spectaculaire marchande, qui disait, mais vous vous trompez de combat. En gros, vous utilisez des bons moyens, la révolution violente, tout ça, mais vous faites ça simplement pour accéder à la consommation. Et oui. En fait, en faisant ça, vous vous aliénerez encore plus. C'est pas par là que la révolution doit passer, c'est pas par l'accès à la consommation et au spectacle. Mais dans la mesure où on présente l'accès à la richesse comme un moyen de se libérer, ça paraît presque normal et logique qu'un discours révolutionnaire soit porté par cet idéal.
Après, il faudrait pouvoir définir plus concrètement ce que c'est richesse. Hein. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est avoir juste une maison, une voiture?
Ou
est-ce que c'est avoir 15 maisons, 15 voitures?
Bien sûr.
C'est au niveau de ce... il y a une question de degré aussi. Et voilà. Donc, bien sûr que là, on n'était pas vraiment dans ce genre de discours. Et justement, ça fait une magnifique transition avec cette chanson finale. Une personne dans le rap, dans le game, qui, elle, propose une véritable révolution libre. C'est ça le terme aussi qu'emploie Marie-Grégoire Duras. Une révolution libre, c'est-à-dire une révolution qui n'est pas, dont le but n'est pas l'accès à la consommation. Et une véritable révolution libre, on la trouve dans les textes, notamment de Kenny Arcana, que nous allons écouter pour la fin dans cette chanson magnifique « J'ai osé », parce que elle a osé finalement la révolution libre.
J'ai toujours tout fait à ma sauce, j'ai pas écouté les médisants, j'ai quitté tôt les bancs de l'école qui me trouvaient trop épuisante. J'ai renié mon auréole quand mes plaies étaient trop vivantes. Contre les murs d'une cellule glauque ou sur le dos d'une étoile filante, je suis parti loin de chez moi où m'a-t-on emmené de force. J'ai traversé mes peurs une à une de mon zèle de gosse. J'ai soulevé des montagnes même sous le ricanement de l'autre. J'ai connu l'infernal et puis le rayonnement de l'aube. J'ai voulu comprendre qu'il y avait des crétés, que ce monde pourri serait ainsi. Jamais rien n'y changer sans se faire fracasser par ceux qui portaient l'insigne. J'ai écrit des milliers de rimes que j'ai sorties en m'écorchant les tripes.
Yes, yes, yes.